On est de retour, c'est le Melting Pot aujourd'hui sur BXFM, deuxième partie avec Marc Herman et Evelyne Guzy pour la chronique littéraire.
Oui, bonjour Evelyne.
Bonjour. Alors, Marc, bonjour Charles.
Bonjour, bonjour.
Une chronique croustillante et bien fournie aujourd'hui.
Ben, on l'espère parce qu'on a deux invités que nous attendons avec grande impatience.
Ils sont tout prêts.
Oui, aux dernières nouvelles, ils sont en train de courir près, dans le parc du cinquantenaire, donc j'espère qu'ils n'auront pas une voix trop essoufflée.
Ah, moi, je croyais que
mais on est là, on les attend.
Je croyais qu'ils attendaient que l'armée qui est en face les relâche, mais non, c'est
non,
pas
non,
ça.
Non, non, ouais, peut-être, on ne sait pas, hein, parce qu'il y a un des deux livres qui se passe dans des milieux un peu louches quand
vous
même.
Vous voyez. Hein. Alors, de qui parlons-nous?
Alors, on va parler de Véronique Bieffenot, qui a écrit « Là où la lumière se pose », édité chez Héloïse d'Ormesson. C'est un roman. Et du roman de Francis Danemark aussi, qui s'appelle « Aux anges », et qui est publié chez Robert Laffont. Alors, bon, pourquoi je les invite ensemble? Parce que justement, c'est très original. Ces deux auteurs ont écrit deux livres que je vais appeler jumeaux, mais faux jumeaux. C'est-à-dire tous les deux ont écrit leur livre de leur côté, avec leur inspiration. Mais dans ces livres, il y a des personnages qui se croisent d'une histoire à l'autre. Bon, alors, c'est une idée qui est originale, qui est, semble-t-il, unique dans l'histoire de la littérature. Elle est inédite. Et donc là, on se trouve vraiment devant quelque chose que j'avais envie de partager, dont j'avais envie de parler avec vous. Alors, dans « Là où la lumière se pose » de Véronique Bieffenot, on est dans le cadre d'une trilogie. Donc, elle a écrit trois livres qui se succèdent.
Donc, si je comprends bien, elle a écrit trois livres et c'est le troisième qui est en duo.
Le troisième de la trilogie et qui
donc,
est en
écho. Donc, c'est assez curieux, en fait.
Oui, oui.
Hein, de faire un livre.
Il y a des doubles suites, si vous
donc,
voulez.
Donc, quand elle a démarré, en fait, il n'était pas du tout prévu qu'elle allait faire un livre en duo plus tard.
En duo ou en écho avec Francis Danemark? Non, ouais. Pas du tout. Donc, on peut en fait lire ces trois livres l'un à la suite de l'autre ou de façon mélangée parce qu'elle a quand même fait un travail d'écriture assez grand pour qu'ils puissent se lire séparément. Et puis aussi, on peut les lire en écho avec celui de Francis Danemark, ce qui est très original. Alors là, on est dans un cadre qui est assez sombre d'une héroïne qui s'appelle Naël et qui est aux prises avec un passé dont elle tente petit à petit de s'extraire grâce à l'amour. L'amour, toujours.
L'amour.
Il fallait la faire, celle-là. Donc là, on est dans quelque chose d'assez sombre et on a quelque chose de plus doux, de plus rose avec Francis Danemark, qui aborde les aventures d'héros masculins avec une plume légère. Mais dans un livre comme dans un autre, il y a une sorte de trame commune. Parce que ce sont des personnages qui cherchent une voie vers l'authenticité, une voie vers l'épanouissement, et c'est ce qu'on leur trouve de commun.
Parfait, ben je crois qu'ils viennent d'arriver, donc on s'écoute un petit disque, et puis ben,
on les fait rentrer,
parler mieux de leur livre qu'eux-mêmes, évidemment.
Bah, mais, comment osez-vous? Comment
allons.
Osez-vous?
je suis content de mon épargne. Elle travaille bien à l'école.
Réinvestir l'épargne pour rénover des écoles de la région. Chez CBC Banque et Assurance, on y croit.
1, 2, 3, 4.
Tous les lundis de 20 à 22h, Richard Q, D.I.P. Deep, Lucifer, c'est PX Rock. L'actualité, les légendes, PX Rock, c'est 100% rock. PX Rock, tous les lundis de 20 à 22h sur BX FM.
On your feet or on your knees, is this what our children should be listening to?
PX Rock.
Vous êtes dans le quartier Montjoie. Vous écoutez BX FM sur 104.3. Melting Pot sur BX FM. BX FM.
Soleil, Follow the Sun, Times Square, Xavier Rudd sur BXFM, c'est le Melting Pot aujourd'hui en ce lundi.
Melting Pot sur BXFM.
On revient avec Marc Herman, Evelyne Guzzi pour la chronique littéraire, comme tous les lundis.
Comme tous les lundis, bonjour Evelyne.
Bonjour, et surtout, bonjour. Hein.
Bonjour à vos invités.
À nos invités,
voilà,
oui.
Vous me les présentez.
Eh bien, il y a avec nous Véronique Biefno qui écrit « Là où la lumière se pose » qui est publié chez Héloïse d'Ormesson, un roman, comme je vous l'ai dit. Et Francis Danemark écrit « Aux anges » qui est publié chez Robert Laffont. Ils ont fini leur course autour du parc du cinquantenaire.
Voilà.
Et donc, ils vont pouvoir enfin nous parler de leurs deux livres jumeaux. Tout le monde les attendait avec impatience. Les voilà.
Bonjour à tous deux et bonjour. Bienvenue à BXFM. Donc, ça va, vous avez eu le temps de repérer les lieux. Comme
oui, ah non, c'est bien.
Mais on est pas mal situés. On est pas mal situés.
C'est un beau parc.
C'est vrai, hein.
Un beau parc.
Voilà. Et il fait beau. Il fait encore beau dehors parce que nous, ici, on
peut rien.
Ah, c'est parfait. Alors, bienvenue et donc, bienvenue avec ces deux livres et cette façon tout à fait particulière d'avoir écrit.
Ben oui, ils ont conçu finalement leurs livres autour de personnages, comme on le fait toujours, mais là, ce qui est original et même unique à mon avis, c'est que certains des personnages d'un livre se retrouvent dans l'autre livre et vice-versa, évidemment. Alors moi, ce que j'avais envie de vous demander, Véronique et Francis, comment vous est venue l'idée de balader les mêmes personnages d'un livre à l'autre ?
Je vais répondre parce que je crois qu'à la base, c'est un petit peu mon idée. Et c'est lié à l'amour ou à l'amitié qu'on a pour nos personnages. Il se fait que Là où la lumière se pose, dans mon cas, est le troisième tome d'une trilogie. Donc, les deux personnages principaux, pardon, ça c'est la course, hein, Simon et Naël, ça faisait des années trois ans que je travaillais avec eux, hein, et c'était la fin de cette trilogie. Et parallèlement à ça, donc j'avais un grand attachement pour ces personnages. Parallèlement à ça, Francis et moi étions en train de travailler sur un tout autre projet qui était l'adaptation de son roman précédent, Alice. Et donc, nous avons collaboré déjà à la lecture finale ou à l'élaboration en ce qui concerne Francis de son roman, à la dernière lecture du mien. Bon, donc, on travaillait ensemble.
Ces deux romans ensemble.
Voilà. Et un jour, je me suis dit, tiens, dans le fond, parce que dans le roman de Francis, dans Aux anges, il y a des personnages formidables, dont la comtesse Emiliana qui vit dans un lieu incroyable. Et bon.
Une grande excentrique.
Tout à fait excentrique. Voilà. mes personnages principaux, Simon et Naël, sont finalement étaient, on va quand même utiliser le passé, tellement...
Ah, ils ne sont pas morts.
Ils sont morts.
Pour nous, ils sont pour toujours vivants.
Oui, pour moi aussi, en fait. Donc, bref, pour les rendre encore plus vivants, c'était une façon de leur donner une vraie réalité que de les faire passer dans un autre univers. Pas seulement le leur, mais en l'occurrence, celui de Francis et dans le château de la comtesse Emiliana. Et Francis, ce qu'il y a, c'est que moi, je débarque... En littérature, Francis a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais il a sauté sur la suggestion, trouvant que c'était très rigolo.
Mais en fait, c'était, au départ, c'était un clin d'œil. C'est-à-dire qu'on n'a pas... L'idée était tellement séduisante. Et au stade où on était dans le travail de nos deux romans, c'était jouable. C'est-à-dire d'amener à ce qu'ils se rencontrent au même endroit, donc dans le château. Mais fatalement, c'est vu. C'est comme une scène qui serait filmée par plusieurs caméras.
D'ailleurs, on voit un autre point de vue sur le même personnage.
Oui, c'est un autre point de vue. Oui. Mais donc, c'était jouable, donc on l'a fait. Mais on l'a fait surtout pour s'amuser. C'est un clin d'œil entre nous. C'était rigolo comme tout. Et on s'est dit, je m'en souviens bien ce jour-là, on s'est dit, oh, y a une poignée de nos lecteurs communs qui vont remarquer ça et qui vont bien s'amuser. Oui. Et puis, c'est passé quand même une chose. C'est qu'on a eu une lectrice assez vite. Bon, quand on écrit, on a des lecteurs test fatalement. Et donc, il y a eu une lectrice, quelqu'un que je connais bien, qui a lu... Le manuscrit de mon roman et celui de Véronique, juste à la queue leu-leu. Et elle a téléphoné pour remercier, pour dire quelques mots. Mais la toute première chose qu'elle a dit, elle dit « C'est incroyable, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est incroyable, c'est comme si les personnages vivaient, puisqu'ils existent ailleurs. » Et ensuite, c'est toi qui as rencontré Jacques et qui, voilà, ça tu peux...
Déquer, Et lui, à ce moment-là, a mis le doigt sur le côté un peu exceptionnel de la chose.
C'est ça.
Parce que c'est vrai qu'en cinéma, en musique, il y a des petits emprunts, mais pas en littérature contemporaine.
En BD entre aussi. Je voudrais savoir sur un plan purement pratique. Vous avanciez en même temps dans les deux romans. Chacun regardait ce que l'autre avait fait, où il en était.
Pour d'autres choses, parce qu'on travaille ensemble, on écrit ensemble d'autres romans. Mais
ça, c'est ici, du quatre mains alors. Quand vous
c'est carrément ensemble. Du quatre mains. Ici, c'est tout à fait autre chose. Moi, la première strate, le premier jet de Là où la lumière se pose, était déjà écrit. Et puis, nous avons commencé à collaborer et donc à retravailler autrement cette. En ce qui me concerne ce roman, d'autant qu'il y avait une énorme difficulté imposée par mon éditrice, Héloïse d'Ormesson, qui était de ne pas jouer le jeu de la trilogie. C'est-à-dire, nulle part, il n'est annoncé que c'est tome 1, tome 2, tome 3. Donc, j'étais obligée, pour les trois tomes, d'écrire un roman qui pouvait se lire séparément, ce qui n'est pas simple, surtout quand on arrive au troisième tome.
D'autant plus qu'il y avait une autre contrainte, parce qu'il y avait une collection qui se crée de thrillers, donc la demande... heureusement non respecté, était d'accentuer le côté thriller plus que le côté roman d'initiation et de rendre la référence aux deux autres inutile.
Voilà.
Donc c'était un truc tout à fait cinglé. Sur le plan éditorial, c'était un pari énorme.
Ok. On vous laisse souffler, vous en avez encore besoin. Donc on prend un gros bol d'air, un petit bol de musique et on revient dans quelques instants. La messie est move. Come on, come on, come on, dance. Let me see you move. Come on. Baby, love never felt so good. Can't die, they never could. Not like you, hold me on, baby. Love never felt so fine.
Every time I love you,
Le duo Michael Jackson et Justin Timberlake pour Love Never Felt So Good. Deux invités aujourd'hui dans la chronique littéraire. On a Véronique Biefno, si je le dis bien, et Francis Danemark. Ma chère Evelyne, on est de retour là, en scène cette fois-ci.
Oui, oui. Alors maintenant, je vais m'occuper justement de Véronique plus particulièrement. On reviendra sur Francis Danemark après. Et donc, c'est un nom qui, pour certains d'entre vous, n'est pas inconnu parce que Véronique a derrière elle une belle carrière de comédienne et de présentatrice aussi à la télévision. C'est une artiste polymorphe. Parce qu'elle est aussi metteur en scène, elle est également peintre. Et en tant qu'auteur, on lui doit donc les deux premiers volets de la trilogie que clôt Là où la lumière se pose, c'est Comme des larmes sous la pluie et Les murmures de la terre. D'ailleurs, les deux premiers sont maintenant édités en poche. Il y a d'autres livres aussi. Et comme elle l'a bien dit là tout de suite, ces livres peuvent se lire séparément, ce qui demande un travail d'écriture considérable. Alors, moi, ce que j'avais envie de vous demander, Véronique, c'est finalement comment l'écriture s'inscrit dans votre parcours général d'artiste, puisque vous avez différents modes d'expression. Quelle est la particularité de celui-là et pourquoi vous êtes mis à écrire maintenant ?
Bah, parce que je crois que tout arrive au moment où ça doit arriver, en fait, voilà. Et que j'ai toujours eu à cœur de raconter des histoires. Par un biais ou l'autre. Alors, le théâtre, on raconte des histoires, la peinture aussi, puisque je peins, la mise en scène également. Au point de départ, j'ai fait quand même des études de lettres, j'ai fait philo-romane, donc il y avait dès le départ un intérêt pour les auteurs et pour l'écriture, et surtout pour la lecture, évidemment. Alors, la pratique du théâtre m'a amenée à faire de nombreuses ce qu'on peut appeler des petites formes, c'est-à-dire des adaptations, des petits scénarios pour la télé, pour des courts-métrages, des choses comme ça. Donc jamais de choses un peu lourdes, un peu importantes et un peu solitaires aussi. Et donc j'ai écrit le premier tome de ma trilogie qui s'appelle Comme des larmes sous la pluie. Je l'ai écrit dans un inconfort total, c'est-à-dire j'étais en tournée, j'étais en train de jouer, donc j'écrivais dans ma loge, dans les trains, dans des avions, dans des bus, etc. Mais avec un plaisir constant de découvrir que, contrairement à ce que j'avais pensé, la chose n'allait pas se tarir tout de suite. C'est-à-dire, je m'étais dit, un roman, mon Dieu, mais j'ai pas le temps, j'ai pas... Enfin, on a toutes les bonnes et mauvaises raisons qu'on se donne pour ne pas se lancer. Et là, ça a été juste l'inverse. C'est-à-dire, les 10 premières pages, les 20, les 100, et puis voilà, hop, l'histoire est née. C'était fabuleux pour moi. C'était vraiment... un mode d'expression qui me convenait et qui convenait à ce moment-ci de ma vie, voilà. À un âge où je crois pouvoir raconter pas mal de choses parce qu'en avoir vécu pas mal et avoir la patience de le faire tranquillement derrière un ordinateur, chose que je n'aurais pas eu à 20 ou 25 ans.
Merci.
Très bien, on vous laisse de nouveau souffler et puis on se penchera sur le cas de monsieur Francis Danemark.
A tout de suite sur BXFM, Melting Pot. Merci Marc. On réécoute Mademoiselle 19 avec Tout de même en ce lundi 8 septembre. C'est le Melting Pot jusqu'à un peu plus de 13h aujourd'hui.
Jamais tu m'as dit que j'étais jolie. Jamais tu daignes me faire cajolerie. Jamais tu m'as. Jamais tu ne te montres prévenant. Jamais tu feras quoi que ce soit pour montrer que tu tiens à moi. Mais je m'en fous puisque tu m'aimes tout de même. Jamais tu trouves mes calembours marrants. Jamais tu m'as offert un bouquet de fleurs. Jamais tu fais preuve d'un peu de douceur. Jamais tu crois quoi que ce soit pour montrer que tu tiens à moi. Je m'en fous puisque
21h05 sur BXFM, le Melting Pot, retour avec Evelyne Guzzi et Marc Herman, ainsi que ses invités.
Oui, nos deux invités, on rappelle leur nom pour ceux qui débarquent à l'instant ou qui arrivent au moment de l'apéritif. Il s'agit de Véronique Biefnau et de M. Francis Danemark. Alors, on vient de faire un petit tour de la carrière de Véronique, en fait, qui est bien qu'étant encore fort jeune, a quand même déjà un passé très chargé. Et alors, on va parler de M. Francis Danemark et faire plus ample connaissance, si vous voulez bien.
Oui, Francis Danemark, donc, qui vient de nous livrer Aux Anges, qui est en fait le dernier d'une trentaine d'ouvrages quand même. Bon, c'est une figure marquante de nos lettres, je le dis devant lui, hein, voilà, il va falloir maintenant qu'il l'assume.
Une figure persévérante.
Voilà, voilà, voilà. Et donc, parmi vos livres, Francis, on compte surtout des fictions et de la poésie. Mm-hmm. Vous avez aussi une œuvre d'éditeur, si on peut appeler ça une œuvre, en tous les cas, vous travaillez également comme éditeur. Et vous avez cofondé la collection Escale de lettres au sein de la maison d'édition française Le Castor Astral. Et on va d'ailleurs bientôt parler d'un des livres que vous avez édité, Feivel le Chinois, qui a été écrit par Philippe Smolarski, qui est un Bruxellois. Mmh. Alors la question que j'avais envie de vous poser, c'est comme éditeur, vous avez depuis le début défendu nos lettres belges. Est-ce que c'est un combat important pour vous?
Non. Non, je plaisante.
Ça a le mérite d'être clair.
Non, c'est vraiment très important, évidemment. Mais je tiens vraiment à dire ceci. Je ne peux pas défendre des écrivains belges parce qu'ils sont belges. D'abord, je n'ai pas l'esprit de corps. Je ne suis pas un type très club et très solidaire pour ce genre de choses. J'ai d'ailleurs souvent mis en garde des gens. Si on fait la promo d'un auteur parce qu'il est belge, ça se retourne toujours contre lui. Parce que on commence par dire « si c'est belge, c'est bon », tôt ou tard, ça finit par « si c'est belge, c'est con ». Pourquoi ? Mais parce qu'il y a des bons et des mauvais écrivains belges. Donc, je suis très très heureux, j'ai publié beaucoup d'auteurs belges. Mais pourquoi ? Pas parce qu'ils étaient belges, mais parce qu'ils étaient vraiment bons, je trouve. C'est simplement ça. Et c'est un privilège pour moi d'être éditeur, de vivre à Bruxelles, de travailler avec une maison française, et de pouvoir faire connaître de façon un peu plus large. Par exemple, je suis très heureux, j'ai publié l'année passée le premier roman de Verena Hanf, Tango Tranquille, qui a eu très clairement plus de succès en France qu'en Belgique. Bizarrement, on l'a un peu loupé en Belgique. Son deuxième roman sort, il est coup de cœur de tous les espaces culturels. Leclerc, je suis trop content. Elle est belge, d'origine égypto-libanaise et allemande, purement bruxelloise, vivante ici. C'est une vraie belge, une vraie bruxelloise, qui se trouve un public ailleurs. Si je peux faire ça à partir d'un bon bouquin, je suis vraiment très heureux.
J'avais une petite question supplémentaire. Quand on a les deux casquettes, donc éditeur et auteur, est-ce qu'on arrive à être totalement objectif, puisque un auteur, et en principe, et dans votre cas, je suis certain que c'est le cas, quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a quelque chose à dire, et vous l'avez prouvé suffisamment. Donc, est-ce que vous pouvez vous détacher du Francis Danemark auteur quand vous jugez un autre livre ?
J'espère que oui. D'abord parce que je le fais depuis longtemps. Et aussi, j'étais écrivain bien avant d'être éditeur, en quelque sorte. C'est devenu un job, alors que... J'étais assez grand, mais c'est un concours de circonstances, et que j'ai toujours aimé éditer. J'avais une revue de poésie à 16 ans déjà. Donc j'aime bien travailler avec des gens, je trouve ça formidable. Donc ça s'est fait ainsi à l'époque où j'étais organisateur de festivals internationaux. J'ai travaillé avec des écrivains, j'ai publié les bouquins. Et surtout, je crois que ce qui me permet d'être éditeur, c'est... Je ne pense pas avoir un ego monumental. Et surtout, je suis très admiratif. Quand je dis que je n'ai pas un égo monumental, j'en ai un comme tout le monde. Mais je suis terriblement conscient de mes limites. J'ai une palette à moi. Je sais que je suis très bon pour certaines choses et pas bon pour le reste. Je ne sais vraiment pas tout faire. Et donc, j'admire énormément les gens qui font bien des choses que je ne sais pas faire. Et là, ce que j'ai acquis au fil du temps, ce sont des compétences, un regard et des compétences techniques. C'est un vrai bonheur de mettre ça au service de quelque chose de différent de moi. Donc je pense qu'aucun auteur ne m'a jamais trouvé autoritaire. Chiant et sévère, oui. Mais voulant coller un truc à moi, mais non, moi il y a déjà, c'est bon.
Est-ce que certains auteurs ont une influence sur votre façon d'écrire ultérieurement ?
Tout ce qu'on lit nous apprend quelque chose en écrivant. Mon travail d'éditeur, revenir 100 fois sur un texte et comprendre pourquoi il ne marche pas, etc. C'est un bonus pour moi comme auteur, bien sûr. Tout le monde y gagne à la fin.
C'est une école, finalement.
Oh oui.
C'est ça.
Tant qu'on va à l'école, on va bien.
Tout à fait. Alors, à l'école, il est une heure. On laisse passer la cloche et puis on revient.
Merci Marc. Merci Marc. La cloche, oui, on peut le dire. Hein. Très bien. Allez, on revient juste après le top de 13h. On s'écoute les Red Hot Chili Peppers. C'est ça.
BXFM, il est précisément 13h.
Kipak de Kitred Bank, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur kitredbank.be.
Vous êtes dans le quartier des Marolles, vous écoutez BXFM sur 104.3. Melting Pot sur BXFM. BXFM.
Snow, de Red Hot Chili Peppers. Snow, on va l'attendre un peu. Hein. La neige, c'est dans quelques mois, peut-être, on le verra
peut-être.
Cette année. Hein.
Espérons que non, parce que s'il y a de la neige, on n'aura plus d'électricité, probablement.
Ah, c'est pas grave, Marc, tu viendras pédaler. Hein.
Oui. C'est la seule émission littéraire où la présentatrice bat la mesure.
Oui, c'est vrai. À Evelyne, il faut la tenir. Hein. Oui, c'est extraordinaire.
C'est super.
Il y a un avantage ici, c'est qu'on ne filme pas le studio. Donc on peut faire tout ce qu'on veut.
Je ne sais pas si c'est un avantage.
Allez, retour dans le Melting Pot, un peu. On déborde un petit peu aujourd'hui, rien de bien grave, et on parle de littérature, ma
oui,
chère Evelyne.
Oui, je le rappelle, en compagnie de Véronique Biefno et de Francis Danemark.
Oui, Véronique Biefno qui a d'ailleurs écrit « Là où la lumière se pose », qui est notre sujet d'aujourd'hui, et je vais faire un petit pitch. Donc, c'est un livre qui se passe près de chez nous, à Bruxelles et dans le Brabant wallon, et ça nous plonge finalement dans l'histoire de Naël, qui est une héroïne mystérieuse, qui est à la recherche d'elle-même, mais aussi de sa sœur, qu'elle a perdue de vue depuis qu'enfant elle a fui la secte où elle a été élevée. Alors, Naël est quelqu'un doté de pouvoirs quasi surnaturels, et en elle vit quelqu'un d'autre, on peut dire, avec qui elle doit sans cesse concilier, se réconcilier. Et finalement, dans une série de chapitres qui sont très denses, qui sont presque nerveux, Véronique Biefno déploie une écriture que j'ai trouvée très délicate et par moments poétique. Et tout en explorant le thème de la fascination de l'autre, de l'emprise, elle nous ouvre aussi la voie à l'espoir et elle nous dit en quelque sorte, en tous les cas, c'est ce que j'en ai compris, que nous avons tous droit à une rédemption. Est-ce que vous dites ça, Véronique ?
Bah, oui, ouais, c'est très bien dit. Mais, le titre le dit, hein, là où la lumière se pose. Donc c'est effectivement un parcours assez sombre, mais vers la lumière, clairement. Et c'est ce qui guide toute la trilogie, avec Comme des larmes sous la pluie, Les murmures de la terre et le dernier tome, Là où la lumière se pose. C'est ce parcours assez chaotique, assez compliqué de Naël, qui est un personnage... qui, je crois, a touché pas mal de monde parce qu'elle est assez atypique, elle est assez forte, elle a un courage exceptionnel et elle veut aller au bout des choses, malgré les mauvaises cartes, finalement, que la vie lui a données dans son enfance. Et donc, c'est l'histoire de tout ce parcours et comment elle arrive à survivre dans un premier temps, à se reconstruire physiquement ensuite, avec aussi des petits dégâts collatéraux, hein, effectivement des troubles de la personnalité, avec des choses avec lesquelles elle doit faire, et puis finalement trouver l'amour avec Simon et avec lui marcher vers la lumière. Donc c'est un peu le parcours de cette trilogie, effectivement, qui se passe pour le premier et le troisième tome en Belgique. Donc entre Bruxelles, Brabant-Wallon et les grottes ardennaises, parce que dans le tome 3, il y a énormément, les grottes ont une très très grande importance, sous la terre, disons. Et le deuxième tome, Les murmures de la terre, se passe, lui, en Bolivie, c'est un voyage initiatique, hein, une quête initiatique, avec pas mal de chamanisme et de voyages chamaniques décrits. Voilà, donc c'est un peu tout le parcours.
Voilà, mais sans doute qu'il y a pour vous plusieurs types de quêtes initiatiques. Il y a celle de Naël actuellement, et puis il y a peut-être une sorte de quête qui peut être offerte par des sectes ou par des gourous. Et vous essayez de trouver une voie, me semble-t-il, entre ces deux types de quêtes.
Oui, parce que je ne suis, pour ma part, pas du tout convaincue par ce que peuvent offrir les sectes, quelles qu'elles soient, hein, les religions qui ont plus ou moins bien ou mal réussi. C'est, voilà, je trouve qu'on doit garder son libre arbitre et essayer de trouver son chemin personnel. Mais c'est vrai que bon, il y a Naël et il y a sa sœur, et on peut voir justement le parallèle de ces deux personnes, jeunes femmes, qui ont connu le même démarrage difficile dans la vie et qui sortent de manière très différente, l'une comptant plutôt sur ses propres ressources et l'autre effectivement ayant besoin de réassurance et du soutien, de normes à suivre et de règles bien imposées. Enfin bref, elle entre dans une secte effectivement.
Il y a aussi le sentiment qu'au travers de Naël, il y a une certaine vision de l'être humain qui ressort. C'est un être humain qui est complexe, qui peut par moments comme sortir de lui-même, devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que nous devons concilier en nous divers contraires?
Oui, mais bon, Naël est un personnage romanesque. Hein, donc, toutes ces choses que nous connaissons, probablement à des degrés divers, sont poussées un peu à l'extrême, hein, pour avoir cette dimension un peu onirique et romanesque de ce souffle, je dirais, qu'il y a dans cette trilogie. Parce que c'est avant tout une littérature de délassement, et c'est de l'aventure, et il se passe des tas de choses, voilà.
Et c'est d'ailleurs le cas des deux livres aujourd'hui, c'est vraiment des livres pour prendre du plaisir, pour se délasser, mais ça ne veut pas dire des livres sans profondeur, et c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous faire dire pour le moment.
Merci.
Encore quelques secondes, je vous propose une pause dans cette partie de ping-pong, et puis on passera aux anges.
Très bien Marc, faisons une petite partie de ping-pong cet après-midi, ça nous ferait vraiment du bien. Oui. En ce lundi, Chroméo, Gilous, c'est ce qu'on écoute tout de suite et on revient juste après. C'est le Melting Pot, chronique littéraire, BX.
Shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Too much uncertainty. Why can't she give some sort of sign? You know, and I know a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So it isn't really my fault. I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk
Evelyne Guzy qui se dandine sur sa chaise avec ce morceau. C'est le morceau pour sortir, hein. Oui, c'était le week-end, mais on est là, lundi, tout va bien, c'est l'après-midi. Bon appétit encore si vous êtes à table, peut-être c'est déjà le dessert. Et on revient avec Marc Herman qui est en mode dessert et bientôt en mode ping-pong. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, quoique le ping-pong après le dessert, je sais pas, c'est peut-être pas l'idéal. Je préfère ou plutôt ou alors beaucoup plus tard. Pourquoi mode ping-pong? Parce que nous avons deux auteurs qui ont écrit deux livres jumeaux. Ça fait un petit temps qu'on en parle avec Evelyne, donc Véronique Biefno et Francis Danemark. Nous allons nous tourner maintenant vers Francis Danemark pour le livre intitulé « Aux anges ».
Aux anges, tout à fait. Alors, finalement, les personnages aux anges ne vivent pas du tout les mêmes affres que ceux de Véronique Biefno. On a deux héros qui sont nés dans les années 60. Ils sont respectivement cadres dirigeants dans une société et photographes branchés. Leur vie semble réussie, mais à vrai dire, ils s'ennuient. Alors, leurs amours sont atteints par la lassitude, leur métier ne les passionne plus, mais vont-ils oser le changement? Alors, ils ne se sont plus vus depuis des années, ils se lancent dans un périple en voiture à travers la France et ses villages champêtres. Là, d'ailleurs, on va retrouver des personnages de Véronique Biefno. Bon, alors, le livre est fait de conversations intimes, de rencontres incongrues, de situations cocasses qui rythment ce voyage. Et finalement, on se dit que cette histoire, elle pourrait nous arriver et elle nous donne un petit élan d'optimisme. Donc, en ce début d'année où il y a peut-être des choses sombres qui se profilent à l'horizon, ça peut vous donner du punch, je vous le conseille. Et j'ai envie de demander à Francis Danemark comment inscrire aux anges dans la perspective de la globalité de son œuvre littéraire qui comporte quand même, je l'ai dit, une trentaine d'œuvres.
Est-ce que c'est vraiment important de... Je ne sais pas, mais...
Quelle place tient ce livre pour vous?
Importante. Mais je dis que c'est une évolution. Mmh. Mais c'est un boulot trop sérieux de s'amuser à 10. On part de là, on va là.
Les
bilans, on ne peut les faire que quand c'est fini. Donc voilà. Mais de plus en plus, j'écris ce que j'ai envie d'écrire au fond de moi, c'est-à-dire ce sont des comédies, en fait. Mmh. Or, en littérature, dans le domaine littéraire, on sait bien, c'est comme au cinéma, les comédies, ça n'a pas la cote. C'est très difficile, hein. Il faut être tragique pour être sérieux. Dramatique, ça va aussi, mais comique, voilà. Donc, c'est un rêve. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait à propos d'Aux anges, c'est dans l'émission Livrée à domicile, où la personne qui avait lu mon roman a dit qu'elle avait éclaté de rire à plusieurs reprises en lisant le bouquin. Vous n'imaginez pas comme j'étais content. Parce que le pari, c'est de dire des choses qui sont sérieuses et importantes. Ce sont deux types qui sont quand même un peu paumés. Apparemment, ils ont tout réussi, et en pratique, non, ils ne sont pas heureux. Et une rencontre tout à fait inattendue sur le bord d'une route va réorienter leur vie. Bon, ça aurait pu faire un truc sérieux. D'ailleurs, c'est là que l'apport de Véronique a été important, parce qu'on travaillait sur le roman précédent, qui est aussi à la fois triste et très joyeux, Alice, au moment où m'est revenu le projet de ce roman-là, Aux anges. Or, la première version du scénario aller vers un road movie un peu triste, deux quinquagénaires qui se demandent où ils en sont, etc. Et en discutant, je le sentais plus. Et en discutant, en travaillant à deux là-dessus, le roman a pris la forme qu'il a aujourd'hui, maintenant. Et notamment en développant le personnage d'Emiliana, qui est une comtesse un peu barge, qui se trouve un jour, une vieille dame, hein, qui est sur le bord de la route avec un van Volkswagen assez abîmé. Cette dame qui était censée passer 4 pages dans le roman maximum est devenue le personnage central. Donc la rencontre a changé le roman. Donc les rencontres, ça ne change pas que la vie des gens, ça change les romans aussi. Parce que brusquement, le roman n'est plus du tout ce qu'il aurait pu être. La rencontre qui va se faire entre ces deux hommes et la vieille comtesse un peu folle va modifier totalement leur vie. Et c'est des rencontres qu'on peut faire en vrai. Tous les jours, demain, maintenant, si vous voulez.
On sent beaucoup de tendresse pour vos personnages et à la fois un tout petit peu d'ironie vis-à-vis de tous ceux que nous sommes.
L'ironie, c'est un clin d'œil plutôt.
Un petit clin d'œil, oui. C'est
l'idée qu'on
est... C'est bienveillant, effectivement.
Oui, et derrière tout ça, il y a l'idée qu'on est tous rien du tout, au fond. Hein. Ça, c'est ce que je pense. Un être humain, je trouve ça pas intéressant du tout en soi. C'est comme un caillou ou un arbre. Ce qui est intéressant chez les humains, c'est les liens entre eux. En soi, un être humain, que ce soit un clochard ou un prix Nobel de littérature, on le met tout seul sur une chaise, il m'intéresse quand même moins qu'un caillou ou un arbre.
C'est une invitation au changement, finalement, ce livre.
Mais Oui, sûrement.
En tout cas, un
des personnages cite d'ailleurs un proverbe chinois à un moment, et il dit que c'est sa phrase clé. C'est un très vieux monsieur. Il dit « Le refus du changement, c'est la mort. » Donc c'est une invitation aimable, j'espère, hein, douce, pas agressive, au changement, à accepter qu'une vie, ça bouge sans cesse. La vie, ça bouge sans cesse. On vit dans un monde qui met des rails dans tous les coins et qui n'invite pas trop à évoluer. On dirait que tout le monde a peur et qu'on veut garder le monde dans l'état où il est. Freeze.
Formaté.
Oui. Or, il y a peut-être moyen de faire autre chose.
Oui, d'évoluer. Sûrement.
Alors là, le changement, il est radical. Il est à la fois sur le plan professionnel et il est sur le plan privé. Ouais. Et je me suis demandé si pour un prochain livre, ce ne serait pas amusant de traiter de quelque chose qui dure, qui peut évoluer et continuer.
Mais nous écrivons ensemble, Véronique et moi, on a terminé deux romans et un livre étrange, plein de dessins et de poèmes. Et on est dans un troisième roman pour le moment. Et le troisième, entre autres, les trois s'occupent de choses qui durent.
Il y a encore une suite. Donc c'est un peu suggéré, finalement. Moi, je me suis dit ça.
Tout à fait. Donc,
j'ai lu ça, voilà.
Il faut être un peu patient que tout ça paraisse.
Oui, oui.
Mais c'est en cours, rassurez-vous.
Donc, il y en aura 32, 33, 34. Voilà, vous faites des petits, on dirait.
Certainement.
Voilà une bonne conclusion, finalement. Et puis, finalement, une belle attente, puisque vous nous avez donné envie. Je trouve que, en tout cas, la manière dont vous avez parlé des deux bouquins donne vraiment envie de les lire. Et c'est un peu le but de ça, hein, sinon vous ne seriez pas ici, on est bien d'accord.
Non, quelque part.
Voilà.
C'est quand même la première raison d'écrire des bouquins.
Oui, quelque part.
C'est de faire quelque chose de sympathique dans la vie des
voilà.
autres.
Je vous remercie. On rappelle peut-être encore l'éditeur, les deux titres.
Oui, voilà. Alors, il y a Véronique Biefno, Là où la lumière se pose, qui est publié chez Eloïse d'Ormesson.
Et les deux précédents en livre de poche.
Les deux précédents étant en livre de poche et Véronique. Voilà, Véronique va nous rappeler les deux titres.
Alors. Oui, donc le premier, c'est Comme des larmes sous la pluie. Et le second, c'est Les murmures de la terre. Effectivement, comme ça, la trilogie est au complet disponible chez tous les bons libraires. Voilà.
Absolument, on l'a vu.
La semaine prochaine, Francis
Danemark, Aux anges, publié chez Robert Laffont avant la semaine prochaine. Recitons l'ouvrage de notre deuxième invité.
Je suis désolé, monsieur Danemark, je suis tellement formaté que j'étais déjà parti.
C'est déjà pardonné.
Voilà, alors la semaine prochaine, on va aborder un genre qui est tout à fait méconnu, c'est le conte et même le conte philosophique où se sont illustrés deux de nos auteurs. Alors il y a un formidable livre de Florence Richter qui s'appelle La déesse et le pingouin qui est publié chez Avant-Propos, que vous allez voir c'est la somme de toute une réflexion mais qu'elle parvient à rendre vraiment vivante et à mettre à notre portée à tous vraiment des considérations philosophiques qui sont très très profondes. Donc voilà, on change un petit peu de genre la semaine prochaine. Et alors, il y a aussi le livre de David Giannoni, dont on a déjà parlé ensemble, puisque c'est aussi un éditeur belge, qui a publié Les Contes de Notes chez Maelstrom Réévolution. Donc, ça sera une semaine tout à fait différente. On essaye un peu de varier les plaisirs entre nous.
On rappelle aussi votre site.
Alors, on trouve la chronique que vous n'avez pas entendue aujourd'hui, puisque c'était une interview sur mon site www.evelyneguzy.be. Combien de Y, attention.
Deux.
Deux Y et combien de E?
Je ne sais plus, beaucoup.
Trois. Trois E et deux Y, donc si vous étiez sur l'orthographe. Non, c'est le Y à côté des X, ça fait un peu de bien, donc voilà. Donc voilà, donc mon site et aussi sur la page Facebook de BXFM 104.3, vous aurez le lien vers la chronique et vers l'interview d'aujourd'hui que vous pourrez réécouter ou écouter si vous n'êtes pas des nôtres pour le moment. Voilà, je parle aux esprits, mais il paraît que la télépathie, c'est scientifique maintenant, ça marche.
On n'arrête pas la technologie. Bien, je vous remercie tous deux en tout cas.
Merci.
J'espère que vous avez passé un bon petit moment sur BXFM. Ça
ne regrette pas d'être venu.
C'est très gentil. Vous êtes toujours les bienvenus jusqu'au 50e roman ou 60e. Voilà,
bien sûr.
À bientôt.
Merci,
bon
Marc.
Appétit à tous.
Merci, Marc. À demain. On revient dans le Melting Pot à partir de midi. On repart tout de suite en musique avec Denis Lagasse jusqu'à 16h.